dans les grandes villes ou les petits villages, devant nous défilent de jolis paysages. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie, car on a besoin d'affection dans la vie. Venez avec nous dans nos aventures, plus on est de fous et moins la vie est dure. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi, et je me balade.
Vous étiez comment à 8 ans, Jonathan Capdevielle, quand vous regardiez ce dessin animé ?
À 8 ans, j'étais, je pense, un enfant un peu isolé, avec des frères et sœurs un peu grands pour moi, donc plongé dans l'univers de la télé, surtout quand je rentrais de l'école, et notamment les mangas du Club Dorothée, dont on entend là déjà le souvenir sonore.
Et vous rêviez de quel genre de famille ? À ce moment-là.
Alors quand on est enfant, si je me souviens bien, j'essaie de me souvenir de ça, mais la famille finalement, on l'observe beaucoup avant de savoir que c'est sa famille. Je crois que j'étais plus dans l'observation de mes parents, de ce qui se passait aussi avec mes frères et sœurs. J'étais un enfant plutôt timide du coup, donc je la sentais un petit peu lointaine par rapport à moi et peut-être à l'idée que je m'en faisais quand j'étais enfant. Et c'est en grandissant que finalement on apprend à mieux la connaître, cette famille-là. Mais c'est vrai qu'à 8 ans, le doute persiste quant à sa famille et à son devenir, en fait.
Et est-ce qu'à 8 ans, vous faisiez des petites scènes déjà de théâtre ou des jeux de rôle ou...
Alors quand j'étais petit, oui, j'aimais beaucoup me mettre en scène, parfois même tout seul, juste en faisant de l'imitation, par exemple. À l'école, comme les émissions de télé, je reprenais par exemple Les Mariés de la 2. Et j'avais un petit moment de représentation qui m'était dédié à la bibliothèque, où je pouvais choisir des copains, des copines, pour montrer un petit bout de spectacle pour les autres enfants et les maîtresses et les maîtres.
Par exemple, s'il y a une imitation ou quelque chose qui date de cette période où vous avez 8-9 ans, ce serait quoi ?
C'était le journal de 20h de TF1 de l'époque, quand Patrick Poivre d'Arvor était plutôt jeune, voilà. Mais je sais pas si je peux vous le faire là maintenant. Hein.
Et la famille, elle était spectatrice ?
La famille a été spectatrice, mais plus tard, en fait. Elle trouvait que j'avais un certain humour, déjà enfant, à faire des blagues, quoi, à mes parents, d'ailleurs... je m'amusais d'ailleurs, comme dans Rémi, là au début du spectacle, quand j'étais petit, je m'amusais pendant le carnaval à me faire couler du sang de la bouche et à m'évanouir dans les toilettes, par exemple. Donc les enfants arrivaient, les copains, ils disaient « ça va pas », ils appelaient la maîtresse, donc il y avait une espèce de panique autour de ça, et puis c'était du faux sang, puis je me réveillais, puis je me faisais gronder parce que j'avais fait semblant d'être mort ou d'avoir eu un problème à ce niveau-là, au niveau santé, quoi, on va dire. Voilà.
Il est 20h sur France Culture et on ne peut pas tous être orphelins. C'est le titre du nouveau spectacle des Chiens de Navarre. On ne peut pas nier, surtout à l'approche d'un 25 décembre, qu'on a des parents, proches ou lointains, qui ont des attentes, voire des commentaires à livrer sur notre vie et la façon dont on la mène. Jean-Christophe Meurice met en scène un dîner de famille. Nous sommes tous habitués à jouer des rôles ces soirs-là. Les Chiens de Navarre nous font entrer dans la fiction de Noël et dans celle de la famille, avant de tout faire exploser. La phrase, les mots, les phrases fausses et les non-dits. Le père commencera à dire « on a vendu la maison ». Les enfants répondront « tu as laissé le monde dans un état catastrophique. Toi et maman, vous n'êtes qu'une bande de babacoules dégénérées ». Jonathan Capdevielle, lui, met en scène un orphelin, un héros de son enfance, Rémi, qui lui est bien sans famille dans le roman d'Hector Malo. Il sera vendu à Vitalis, l'artiste qui deviendra son guide, avec son chien Capi et le singe Joli Cœur. Rémi a 8 ans et il part pour une vie de voyage et de spectacle. Dans la pièce, Rémi adulte devient chanteur pour témoigner avec ses paroles de tous les possibles d'une vie hors de la famille. Il chante la liberté et la vie bohème. Nous approchons du réveillon, nous approchons des fêtes et les liens de famille vont se réinventer. Grâce à des esprits rebelles, c'est le thème de cette fin d'année sur France Culture. On quitte la famille et les rôles à jouer chaque année, on entre au théâtre où l'ordre est bousculé. On part dans les loges de deux théâtres à Paris. On commence au Théâtre des Amandiers à Nanterre pour rencontrer Jonathan Capdevielle, acteur, metteur en scène, ventriloque, marionnettiste, dont le spectacle Rémi part en tournée dans toute la France jusqu'en juin. Il sera les 10 et 11 janvier à la Ferme du Buisson et du 15 au 18 janvier au Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. On partira ensuite au Théâtre de la Villette pour rejoindre le metteur en scène Jean-Christophe Meurice de la troupe des Chiens de Navarre et le comédien Alexandre Steiger. Leur nouveau spectacle, Tout le monde ne peut pas être orphelin, part en tournée dans toute la France et ça commence à Bobigny, à la MC 93, du 9 au 18 janvier. Vous écoutez Tous en scène sur France Culture. Avant de s'installer dans la loge de Jonathan Capdevielle, on a croisé les enfants à la sortie du spectacle.
Je m'appelle Caleb et j'ai 9 ans.
Je m'appelle Noah, j'ai 9 ans.
Je m'appelle Iliane et j'ai 9 ans.
Je m'appelle Hassan et j'ai 9 ans.
Je m'appelle Paula et j'ai 9 ans.
Qu'est-ce qui vous a plu dans le spectacle?
Moi, ce qui m'a plu, c'était noir et il y avait les Louis II qui allaient attaquer.
Moi, ce qui m'a plu, c'est parce que c'était drôle et il y avait des gros mots.
Moi, ce qui m'a plu, c'était quand le singe avait dansé avec en montrant les fesses.
Moi, du coup, on n'a pas retrouvé c'est qui les parents de Rémi. C'est qui ses parents?
On les a pas retrouvés.
Et est-ce qu'on va les retrouver dans l'épisode 2?
Et vous avez bien aimé les chansons? Vous avez
reconnu? Ouais, moi j'ai trop aimé. J'ai trop aimé. Surtout la dernière. La dernière.
Vous vous souvenez des paroles de la dernière? C'était
quoi? Non. Et moi, ce que j'ai aimé, j'ai pas trop aimé, c'était quand Joli Cœur il est mort. Les bruits, ça m'a un peu dégoûté.
Moi j'ai eu très peur quand.
Et la scène, quand il y avait les loups et tout, ils criaient, j'avais trop peur. C'était le noir, il y avait des gens, ils passaient, ça me fait peur.
En fait, la partie où il y avait les loups, ça a fait peur parce qu'il y avait des sons et ils étaient gros. Il y avait des gros sons et le volume il était fort.
Moi, je pense qu'il va trouver ses parents, il sera heureux, il va trouver une femme et il va faire plein d'enfants.
C'est important de trouver ses parents?
Oui, beaucoup. Parce que sinon, s'il vit tout seul, et s'il n'a pas d'argent, il n'a pas de maison.
Pour l'instant, il est tout seul, il est dans la rue, quoi.
Le singe, il chante Aya Nakamura aussi.
Vous la connaissez cette chanson?
Oui.
Oui. Elle est connue.
Vous pouvez la chanter?
Oh oh oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas dans le gâteau, dja dja, genre. Regarde ça, la baby, tu dates ça. Tu penses?
Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas dans le gâteau, dja dja, genre. Regarde ça, la baby, tu dates ça.
On va passer à la télé?
Ouais. La télé, c'est maintenant.
Bonjour, je m'appelle Lina Messaoui, voilà, j'ai 9 ans, je suis à l'école Voltaire, j'ai 9 ans, je suis à Voltaire, attends, je suis à Voltaire, j'habite à Nanterre, exactement, voilà, Nanterreville, donc on est au Théâtre des Amandiers, avec comment vous vous appelez? Avec Aurélie.
Il y a quand même une angoisse, c'est qu'à la fin de la première partie, on n'a pas toujours retrouvé les parents de Rémi.
Ouais, l'angoisse de la vraie famille qui persiste. Après, à chaud, c'est vrai que les enfants, là, on sent qu'ils ont été captés par le son, ce qui m'intéressait quand même dans cette mise en scène, puisque elle va basculer ensuite sur la fiction audio. Du coup, là, en entendant ça, je me dis, bon, ils ont quand même senti l'immersion, c'est-à-dire la création sonore et puis la puissance du son dans l'imaginaire, sa capacité à faire imaginer les choses autrement que l'image. Et c'était vraiment un désir pour moi important d'y arriver à ce niveau-là, de faire disparaître finalement les figures, la représentation à la fois marionnettique et humaine des personnages et laisser le son prendre la relève pour ouvrir cette nouvelle porte de l'imaginaire. Et du coup, je pense que c'est assez réussi. Après, là, j'écoute, c'est vrai qu'ils ont peur, qu'ils sont assez attentifs à la chanson pop, parce que finalement, c'est vrai que ce Rémi, il faut préciser que c'est un petit gamin qui est devenu une star de la chanson hein, au début. Alors, je sais que cette émission radio, parfois, les gamins l'attrapent, et puis à d'autres moments, un peu moins. Mais il faut dire que en sortie spectacle, c'est vrai que c'est assez difficile, je pense, pour eux de saisir évidemment l'ensemble de ce qu'ils ont pu traverser. Alors, en tout cas, c'est assez intéressant d'entendre leur retour comme ça.
Et vous, pourquoi ou à quel moment, en tout cas, vous avez eu envie de vous adresser à des enfants à partir de ce souvenir de Rémi que vous aviez, vous, ayant regardé ce dessin animé et puis ayant peut-être lu après le livre d'Hector Malot?
Ouais, en fait, quand j'étais enfant déjà, je regardais beaucoup les mangas du Club Dorothée. Hein, c'était un rendez-vous quotidien. Donc, il y avait Rémi, mais il n'y avait pas que Rémi. Il y avait aussi un peu plus violent, par exemple, Ken le Survivant ou Albator, Cobra. Dans la même veine, un peu triste, il y avait Princesse Sarah. Il y avait Georgie. Et ses deux frères, qui traitaient quand même à l'époque de l'inceste, hein, entre frères et sœurs. Donc on avait ces thématiques-là sous les yeux, quoi. Et je ne sais pas si Dorothée, ou en tout cas TF1 à cette période-là, mesurait un peu l'impact que ça pouvait avoir chez les enfants. C'est vrai que beaucoup d'adultes maintenant qui ont vu Rémi en ont un souvenir assez triste, sombre... Et ça leur serre le cœur encore aujourd'hui. Donc voilà. Bon, après, il faut dire que le manga, il a quelque chose de beaucoup plus excentrique hein, dans son dessin aussi, dans les univers que déploie le dessinateur, du coup. Et je voulais retrouver cet univers-là sur scène. Du coup, voilà, le manga est quand même présent lui aussi dans son esthétique, grâce à ses poupées habitées par les comédiens qui sont au plateau, et dans une étrangeté proche vraiment... par exemple de Miyazaki, si on peut parler aussi de cinéaste, voilà, et de son traitement d'une œuvre ou d'un conte, à la fois pour les enfants et pour les adultes.
On va écouter la voix de Lydie Salvert qui a lu Rémi quand elle était plus jeune.
Sans famille, il y a une place importante justement dans
oui,
vos lectures.
Oui, c'est un des premiers livres que je lis en entier. Je ne sais pas quel âge je dois avoir... pas aux alentours de 10 ans, peut-être avant, je ne sais plus bien. Et c'est pour moi, mais une découverte, un bonheur. D'abord parce que ce petit garçon est orphelin, ce qui était un rêve. parce que si je me souviens bien, il est adopté par une famille, c'est ça?
Oui, hein, c'est ça, il est adopté par une famille et puis ensuite il est revendu.
Je ne sais plus.
À Vitalis.
Parce que, à ce moment-là, moi qui vis la pauvreté comme une honte, eh bien je me rends compte que pour ce petit Rémi, c'est Rémi qu'il s'appelle, en tout cas pour l'auteur de ce livre, la pauvreté n'est pas honteuse. Elle est une aventure, elle est une découverte. Et je me dis, mais les livres peuvent comme ça changer notre vision sur les choses. Je ne me le dis pas comme je vous
évidemment.
Le dis, mais je suis...
Et
je
ça travaille suis, dans ce sens-là.
Sans doute. Je ne l'ai jamais relu. Je ne l'ai jamais relu, j'ai eu tellement peur que ce soit un mauvais livre.
Non, on a re-regardé le début,
alors,
c'est plutôt bien écrit.
C'est plutôt bien.
Ah oui, le début. Je suis un enfant trouvé. Mais jusqu'à 8 ans, j'ai cru que comme tous les autres enfants, j'avais une mère, car lorsque je pleurais, il y avait une femme qui me serrait si doucement dans ses bras en me berçant que mes larmes s'arrêtaient de couler. Ça commence comme ça.
Ça a dû me transporter, mais ça m'a transportée.
Je pense Jonathan Capdevielle au solo et puis ensuite à la pièce, donc à Adichat Sadieu et puis à Saga, plus autobiographique, que vous avez fait sur votre enfance et votre adolescence. Quel écho ça fait, là on entend Lydie Salver qui parle de sa propre enfance et de se dire j'ai lu ça et je me suis dit la pauvreté c'est une aventure et c'est plus honteux. Qu'est-ce que cette histoire de Rémi, comment ça a fait écho avec votre propre enfance et peut-être ce que vous pensiez, ce que vous perceviez de votre propre famille?
Bah moi j'ai vécu la pauvreté aussi, voilà, tout simplement, donc l'écho il est plus que évident pour moi à travers l'œuvre. J'ai su ce que c'était que de manquer de nourriture à la maison, de devoir économiser fortement, de se priver de choses, tout ça je l'ai vécu. Alors c'est vrai que Rémi, par contre, lui, il a eu, entre guillemets, cette chance d'avoir été emmené par ce Vitalis qui l'a extirpé de ce cadre familial un petit peu bancal, un peu difficile, pour lui apprendre autrement la vie, même si c'est dur dans le voyage, comme on l'a entendu aussi, parce qu'ils ont peu de moyens. J'ai voulu montrer quand même que par rapport au malheur, le malheur est une zone d'apprentissage, et puis parfois même c'est une force à un endroit, parce que on prend de la distance, en fait, du recul avec ce qui nous arrive, surtout quand on arrive à l'âge adolescent, après l'adolescence et tout ça, et à se dire que ben malgré ça, on a de quoi s'en sortir, on peut avoir les outils. Et chacun a des outils pour se sortir d'une situation difficile. Et Rémi, en fait, ce sera par exemple les rencontres, les différents maîtres ou les guides qui vont le construire, l'aider à avancer et à avancer aussi dans la théâtralité, en fait. Dans le roman, il est saltimbanque, il fait de la musique, il chante, il apprend aussi d'autres métiers, comme le jardinage, ces choses-là, mais il revient vite aussi à son premier amour, qui est le spectacle, qui lui a été en fait enseigné par ce grand maître saltimbanque, je dirais pluridisciplinaire, comme dans le spectacle justement sur scène là. Et c'est un peu un parcours que j'ai aussi moi éprouvé, donc avec la couche autofictionnelle elle y est tout du long, elle est diffusée à plein d'endroits. Après, pour ceux qui connaissent ces spectacles, ils ressentent ces liens tissés entre les autres pièces, que ce soit Adichats pour le solo, Saga, pour le roman de famille, et puis la dernière, même Bernanos, où il y a beaucoup de choses qui rejoignent Hector Malo. Voilà.
Parce que Rémi, il a été adopté et emporté par Vitalis, donc ce maître, ce saltimbanque qui va lui apprendre l'art, et puis le faire voyager, lui faire rencontrer beaucoup de gens. Vous vous dites, moi j'ai pas, c'est la différence, moi j'ai pas été adopté, emporté évidemment par quelqu'un, mais en même temps, quand on voit par exemple Saga, le roman familial, il y a des heures de vidéos de vous qui, justement, jouez, vous métamorphosez, vous jouez différents rôles vers 9-10 ans, et vous êtes déjà emporté, vous êtes déjà adopté par un autre endroit, par un autre espace, par celui de l'art et du théâtre, et en tout cas du jeu et de la métamorphose.
Oui, parce qu'à partir du moment où on décide de quitter un petit peu le cadre familial et parfois même de ne plus rentrer chez soi, ce qui m'est arrivé, j'étais une sorte de Rémi, finalement, à partir de 12-13 jusqu'à mes 18 ans, avant de faire l'école de marionnettes plus tard. Entre le collège et le lycée, j'ai eu une zone où, finalement, j'étais éduqué ailleurs qu'à la maison. Et Saga, en fait, relate tout ça. J'ai été éduqué en partie aussi chez ma sœur et mon beau-frère, loin du petit village dans lequel mes parents résidaient. Et j'avais vraiment, en fait, une excitation forte de passer mes vacances là-bas, quoi, et de vivre autrement qu'avec son papa et sa maman. Et presque, on finit par ne plus, je dirais, avoir le manque de ses parents à un endroit. On est dépassé par autre chose, on est pris par autre chose. Et je pense que c'est important, ça, qu'à un moment donné, on est conscient que c'est pas avec ses parents qu'on va faire sa vie, et que le vrai risque, justement, et qu'il faut prendre, c'est très vite d'être indépendant et de vivre pleinement autrement et ailleurs aussi que dans la famille, en fait.
Et ce que dit Vitalis, qui est incarné par l'acteur franco-sénégalais Babacar Mbaïfal, à Rémi, c'est l'important, c'est que tu ressembles pas à tout le monde. C'est aussi ça, comment tu te trouves, qui est-ce que tu deviens sans ressembler à tout le monde et en étant hors de, justement, du groupe ou de la famille.
Ben, l'artiste, c'est le statut de l'artiste. Il est obligé de se différencier de la masse à un moment donné, justement, pour en parler, pour parler aussi des grandes questions du monde, en fait. Et pour ça, il est obligé de revêtir une certaine image qui accroche et qui fait passer des messages forts. Donc ça, c'est toute la force de ce métier-là. Et c'est comme ça que Vitalis dit que voilà, il faut que tu arrives à te montrer et à parler et à t'exprimer et à dire ce que tu ressens. Mais pour ça, il faut qu'on te voie, qu'on t'entende, qu'on te remarque.
Et Rémi, vous l'avez imaginé en chanteur populaire, parce que ça commence donc le spectacle par une émission de radio où on l'entend adulte, beaucoup plus tard quand il a retrouvé sa famille et qu'il est devenu un chanteur, et sa façon de s'exprimer, c'est justement de raconter son histoire à travers des chansons. Et on comprend, parce que c'est plutôt une émission très grand public sur une radio, donc on comprend que voilà, c'est très grand public et il est très populaire. Pourquoi vous avez choisi la chanson pour Rémi ?
Ben, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'artistes et de jeunes artistes s'expriment à travers la chanson. La nouvelle génération de jeunes chanteurs, je pense aussi aux rappeurs. Et il y a toute une génération là qui s'exprime à travers ça et qui est très forte, je trouve, dans la thématique, dans le questionnement justement dans leur situation, la situation du monde dans lequel on vit et la manière dont ils le mettent en chanson. Je trouve ça assez touchant, que ce soit Moala Squal, enfin tous ces chanteurs-là.
Il y a quelques citations dans le spectacle qui n'échappent pas aux enfants. Maître Gims,
Oui, bien sûr, Black bien M. sûr. Mais en même temps, je dirais que la fin du spectacle, c'est la mort de Maître Gims aussi. Donc, le Vitalis, en quelque sorte, endosse la figure de Maître Gims, mais il finit par mourir. Et Rémi est une sorte de relève d'un jeune chanteur qui est en devenir, en fait. Donc voilà, c'est... ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et puis, pourquoi la chanson ? Parce que moi, je suis assez... sensible à la chanson populaire, tout simplement, et que j'ai été bercé dans mon enfance aussi avec la radio, et pas forcément, c'est vrai que c'était pas France Culture que j'écoutais, mais plus Fun Radio, Énergie, bon voilà. Et voilà, à l'époque, on avait des cassettes pour enregistrer, donc je me souviens que c'était très important d'être attentif et d'appuyer sur la touche au bon moment pour avoir sa chanson ensuite à vie, mais cela passait en boucle dans la chambre.
Et l'hymne de Rémi s'appelle « La vie bohème ».
Oui. Alors ça, c'est un mélange entre Malo et ce que j'ai pu moi y mettre aussi dedans. Mais il y a les deux, il y a quand même de l'écriture de Malo dedans. Si vous relisez le livre, vous allez voir qu'il y a quelques éléments qui sont extraits de l'œuvre de Malo. Ouais. « La vie bohème, on aime. La liberté, on aime. Je ne sais pas d'où je viens, mais je sais où j'irai. » Voilà.
Je ne sais pas d'où je viens, mais je sais où j'irai. Accompagné, jamais abandonné. Avec mon chien Capi, mon cher ami Mathia, on a choisi un temps la liberté. On ne croit plus en ce monde qui peu à peu s'effondre. On chante fort nos peurs, nos espérances. La nostalgie amère, un futur tout tracé. On a choisi un temps, la liberté.
Vous la connaissez par cœur.
Un mois.
Vous la chantez, ouais.
Ouais, ouais, je la connais par cœur. Tu m'étonnes, hein, le nombre de fois qu'il a fallu vérifier le mixage, voir comment on faisait avec les cœurs. D'ailleurs, elle a été composée avec Arthur Gillette, hein, Bartlett Gillette. Et du coup, ouais, c'est un petit peu le tube, comme l'était le tube du manga, en fait. L'introduction du manga japonais à l'époque, en 1985.
Le générique.
Ouais, le générique, ouais. Ce qui nous reste vraiment dans la tête de toutes ces chansons comme... enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel. Tu vois, c'est les cités d'or, par exemple. Bon, c'est des choses qui nous restent.
Et alors, normalement, quand on part du théâtre, on a vu la première partie, on part avec un CD de la deuxième partie, on arrive chez soi et on écoute ça.
Bonjour à toi qui m'écoutes avec ou sans casque. Je suis Jonathan, le metteur en scène du spectacle que tu as vu. J'espère que tu es bien rentré du théâtre. En ce moment, tu es peut-être seul ou accompagné, dans ton salon, dans une voiture, dans ta chambre, ou que sais-je encore. Tu es sur le point d'écouter la suite des aventures de Rémi. Mais d'abord,
souviens-toi,
laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Par une nuit glaciale, Rémi et Capi ont été contraints de dormir dans les rues de Paris avec leur maître Vitalis qui, à bout de force, n'a pas survécu au froid. Au petit matin, son corps sans vie a été transporté à l'hôpital. Quant à Rémi, inconscient, il a été sauvé de justesse et recueilli par une famille de jardiniers. Auprès du père Aquin, et de ses quatre enfants, Étiennette, Benjamin, Alexis et Lise, Rémi a été heureux, quelque temps. Mais hélas, un orage violent est venu, détruisant les récoltes de toute une saison. Le père Aquin, ruiné et criblé de dettes, a été jeté en prison. Et voilà Rémi de nouveau sans famille. Le voici, devant les grilles de la prison de Clichy. Il hésite. Rien de plus laid et de plus triste qu'une porte de prison. Mais il entre.
Là, c'est une fiction audio qui dure à peu près une heure, avec plusieurs épisodes, la suite des rencontres de Rémi et puis ensuite les retrouvailles à la fin. Vous parliez tout à l'heure de l'importance du son dans la pièce, déjà pour susciter l'imaginaire sur scène. Là, il ne reste que les voix quand on rentre chez soi. Qu'est-ce qu'on voit dans l'idéal ? Quel moment on passe quand on rentre chez soi?
Alors là, je pense que c'est chacun pourrait répondre à ça, parce que c'est difficile. Dans l'idée, en gros, c'est de continuer de traverser les différents espaces et le parcours de Rémi à travers le son. Et du coup, on y découvre en fait une intimité un peu plus conséquente qu'au plateau, puisque les voix sont traitées de manière beaucoup plus proche. On pourrait même se dire que les personnages nous parlent presque de visu assez près, quoi. C'est vraiment une sorte de voix qu'on a près de l'oreille, en fait. Et donc on est vraiment plus dans l'intimité, je dirais, des personnages à travers cette fiction audio et aussi des espaces que le son organise autour d'eux.
Et ce Rémi dans le spectacle s'exprime donc en chansons finalement, et ça devient des chansons populaires. Ce serait quoi la chanson populaire qui raconterait votre famille à vous?
Je dirais que c'est La Corrida de Francis Cabrel. Voilà. C'est une bonne définition de ce que c'est qu'être au milieu de personnes en fait qui à la fois vous aident et puis finissent par aussi, malgré eux, vous abîmer un peu. Mais voilà,
c'est quoi les paroles?
Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu les fanfares, les lumières et les gens autour. Et est-ce que ce monde est sérieux? Je ne pensais pas qu'on puisse autant s'amuser autour d'une tombe. Voilà. En partie, c'est ça les paroles.
Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou Et j'ai plongé vers le grand jour, j'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour. Dans les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Mais cette place est sans issue, je commence à comprendre. Ils ont refermé derrière moi, ils ont eu peur que je recule. Je vais bien finir par la voir, cette danseuse ridicule.
Nous partons au Théâtre de la Villette à Paris, retrouver le metteur en scène Jean-Christophe Meurice et le comédien Alexandre Steiger de la troupe des Chiens de Navarre. Leur nouveau spectacle s'appelle « Tout le monde ne peut pas être orphelin ». Sur scène, il y a un immense sapin, un salon bourgeois, un réveillon qui se prépare, les parents qui reçoivent leurs enfants maintenant adultes. Et je commence par leur faire écouter cette archive.
Je me dis, quand je serai grand, je me dis, mais je vais avoir des enfants, c'est sûr, je veux avoir des enfants, je veux me marier, je veux avoir ma vie, la vie bien banale, etc. Et je me dis, mais comment je vais les aimer, mes enfants, pour que ce soit bien, pour qu'ils deviennent des gens bien. Faut pas que j'ai des enfants qui soient les enfants que je vois là, que j'aime pas, mais que je trouve qu'ils sont pas bon, pour ainsi dire, entre guillemets, mal élevés. Voilà, et bon, je me dis, faudra que je fasse comme ça, mais je me dis, est-ce que je vais oublier plus tard? Est-ce que plus tard je vais être.
Je veux savoir faire ça.
Voilà, exactement. Je me dis, moi, mes parents, mais ils comprennent pas ça, quoi. Ils comprennent pas que je peux faire ça.
J'espère que je comprendrai.
Voilà. Ouais. En fait, parce que mes parents m'interdisent de faire des choses que je sais que absolument je peux faire. Ouais. Mais d'un sens, il faut que je me dise que plus tard, quand j'aurai des enfants, qui est certain pour moi, c'est clair que je vais faire ça. Je me suis dit un an quand j'étais jeune.
Je me plaignais quand j'étais jeune.
Ouais, quand je me disais, plaignais. Mais d'un sens, je me dis, mais non. Est-ce qu'ils pourront avoir assez de responsabilités pour faire cette chose qui m'interdit?
Ouais.
Faut essayer de comprendre l'enfant et parler avec lui, franchement, voilà.
Tu vas voir comment il est.
Psychologue, alors. Je vais être psychologue plus tard.
Non, mais je comprends ton inquiétude. Enfin, ça te tracasse pas trop, j'espère.
Non.
De temps en temps.
Ça va si quand même un peu, ouais.
Un petit peu,
quand même. Ouais.
Jean-Christophe Meurice, on vient d'entendre un petit extrait d'archives et un enfant qui se pose la question, est-ce que j'aurai des enfants plus tard et comment ils seront? Avec les Chiens de Navarre, depuis une quinzaine d'années, il y a beaucoup de choses que vous avez questionnées, les voisins, les associations, les amis. Et là, cette pièce qui parle de la famille, on a l'impression que la première question, c'est pourquoi on fait des enfants? Est-ce qu'on va en faire? Est-ce que vous avez trouvé une réponse?
Non, j'ai pas trouvé de réponse. Je trouve que l'enfant, là, il est hyper intelligent, j'ai même du mal à le comprendre. Ça c'est sûr que j'ai fait cette pièce parce que je me suis demandé ce que c'était que être parent, ce que c'est que fonder une famille. Parce que moi, effectivement, mon passé familial est un peu, enfin même carrément désastreux. Donc c'est fou pour moi de savoir que j'ai aujourd'hui deux enfants. Quoi. On m'aurait dit ça il y a 15 ans, j'aurais pas cru. Donc c'est pour ça que ça a été un peu la base même de mon spectacle. C'est le grand paradoxe entre le fait que je crois pas du tout à cette notion de famille et en même temps j'ai fait des enfants, donc ça me touche, ça me bouleverse, donc à partir de là c'était un terrain émotif suffisamment ample, enfin riche, pour commencer un travail et créer Tout le monde ne peut pas être orphelin.
Oui, ça me fait penser que quand on est enfant, on se retourne, c'est Bergoglio qui disait ça, on se retourne en désespoir de cause vers l'adulte qu'on deviendra peut-être, comme s'il fallait qu'il nous renseigne sur, nous donne un peu des clés, des vérités qu'on cherche quand on est enfant. Et j'ai l'impression qu'on fait des enfants un peu pour réparer l'enfant qu'on est, ou renseigner l'enfant qu'on a été aussi. Et un peu ce système-là de... Et on s'aperçoit aussi que notre enfant, après, il est totalement autonome, il s'en fout de nous, il veut nous tuer aussi. Je pense qu'on fait des enfants pour qu'il nous tue aussi.
Alexandre Steiger et Jean-Christophe Meurice, dans Les Chiens de Navarre, vous parlez souvent de votre processus de création et de ce terrain vague que vous convoquez à chaque fois au début des répétitions. avec des choses que vous apportez, et puis ensuite l'écriture qui se fait d'abord de façon collective, puis ensuite par des choix que vous opérez. Là, il ressemblait à quoi ce terrain vague au départ? Qu'est-ce que vous avez mis sur la table?
Ah, ça c'est une bonne question, je m'en souviens même plus déjà, mais... je crois que plus que les autres spectacles, j'y ai mis moi d'ailleurs, avant tout, parce que vraiment c'est peut-être mon spectacle le plus égoïste. Parce que je dis pas que l'art est obligatoirement une forme de thérapie, tout ça, non, c'est pas ça, parce qu'il y a toujours, il y a quelque chose qui doit toujours rester ludique ou idiot, quoi. Mais c'est vrai que j'avais des vrais questionnements, c'était pas quelque chose d'extérieur, un petit peu comme Jusque dans vos bras, où c'était quelque chose de plus citoyen. Bon, l'identité nationale, c'est quelque chose qui est abstrait de moins en moins abstrait au quotidien, mais c'est pas quelque chose, je me réveille pas avec ça non plus, à ce point, quoi. Évidemment que j'ai écrit des situations, j'ai proposé des situations aux acteurs, mais c'est venu plus de quelque chose de plus affectif, presque de l'ordre de l'imaginaire, quoi. Contrairement aux autres travaux où j'arrivais avec des photos, des extraits de films, des mots, et je disais tiens, essayons de d'imiter ça, de faire quelque chose de ça. Là non, c'est venu de plein de choses finalement un peu vécues, et même si je me raconte pas du tout moi à travers ce spectacle à ce point. Mais parce que dans le travail de Chien Navarre, il y a toujours une volonté comme ça d'avoir le miroir le plus grand pour les spectateurs, hein, de s'y reconnaître, d'y s'identifier. Ça, c'est une chose obligatoire. Donc, si on pense à l'identification, obligatoirement, on doit se questionner. On doit questionner le statut, la norme de présenter la famille. Non, ce qui m'intéresse toujours, c'est les statistiques, quoi. Par exemple, la moyenne, c'est en France, c'est 2 enfants et demi. Dans une maison, il y a environ 2,34 chambres, 108 mètres carrés de jardin. Enfin, toutes ces statistiques de ce que pourrait être un équilibre ou un bonheur, ça pouvait m'intéresser. Ça, c'est un point de départ. Non, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme point de départ sur toutes les impros et les scènes qu'on a répétées Non, mais pour moi...
Le sapin, il était là depuis le départ.
Ouais, j'avais envie de partir sur un cliché. J'avais envie de vraiment... Le repas de Noël, il n'y a pas plus cliché que ça, quoi. Il n'y a pas plus angoissant que ça, il n'y a pas plus... Non, je crois que j'avais des phrases pour moi... je sais que... Parce que ça fait longtemps maintenant, parce qu'on l'a commencé à répéter il y a un an, mais j'avais... La famille, pour moi, c'était une histoire de violence, une histoire d'absence et une histoire de répétition. J'avais ces trois phrases. Et à partir de là, bah, on a travaillé autour de ces trois sous-thématiques. Mais le sapin de Noël, oui. Ouais. Moi, je détestais décorer le sapin de Noël quand j'étais petit. Enfin, moi, de toute façon, Noël, c'était une source d'angoisse incroyable. Enfin, ça me...
Et là, ça se passe comment, ce mois de décembre?
Ce qui va être bizarre, c'est de faire Noël après.
Ouais.
Il faudrait qu'on fasse Noël tous ensemble.
Ouais. Bah, moi, c'est une période qui me rend toujours très triste, Noël. Mais allez savoir pourquoi. Je vais peut-être pas en parler là, maintenant, sur France Culture. Mais... mais... C'est une période qui est plus source d'angoisse que de joie. Donc, mais ça, c'est
angoissant. Il doit y avoir un taux de suicide délirant, je crois, ouais. où il y a même des gens qui accouchent. Enfin, il se passe quelque chose, quoi.
Il y a une écriture plus politique qu'affective, finalement, dans cette pièce. Parce que la confrontation génération X et Y, bon, c'est quelque chose qui est intéressant. Quel monde nous laissent nos parents? Parce que c'est plus peut-être un spectacle, je crois, sur la parentalité, le rapport enfant-parent, que sur la famille même. Hein. Il n'y a pas obligatoirement les oncles, les tantes. C'est plutôt le côté, ils appellent ça famille nucléaire. Très, très drôle d'adjectif, d'ailleurs.
Mais d'ailleurs, avant de parler peut-être le conflit de génération qui est très présent dans la pièce... Il y a quelque chose. Le premier, il y a beaucoup évidemment de. Enfin, on rit énormément parce que là, on parle très sérieusement de la famille et du moment douloureux de Noël. Mais comme dans chaque spectacle des Chiens de Navarre, on rit beaucoup. Et une des premières tempêtes entre chacun, c'est le père qui vient dire on va vendre la maison. Et tout de suite, c'est qu'est-ce qu'on se donne, qu'est-ce qu'on s'enlève aussi dans la famille, qu'est-ce qu'on va transmettre, ça va être quoi l'héritage?
Ouais, et puis on parle sur cette première scène, on parle du principe qu'on choisit pas sa famille, on la subit, et puis d'habitude, on parle ça toujours au regard des enfants, mais là, c'est au regard des parents qu'on avait envie. Parce que le théâtre des Chiens de Navarre, enfin, notre théâtre régional, c'est la représentation du ça, un peu, de l'inconscient, de tout ce qui n'est pas dit. Donc là, effectivement, en allant dans le sens de ce que vous dites, c'est plutôt... on avait envie de faire dire aux parents tout ce qui... Le ras-le-bol qu'ils avaient de leurs enfants, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'était le retour à l'égoïsme pur. Et donc, on commence effectivement par... bon, là, j'en parle très sérieusement, c'est sûr, mais... J'ai l'impression de faire une conférence, alors c'est difficile de dire que c'est très drôle, mais effectivement on fait dire aux parents tout ce qu'on pourrait jamais entendre dire. Enfin, moi je vais pas redire les paroles, mais c'est vrai qu'ils disent qu'ils n'ont plus rien à foutre de leurs enfants, qu'ils vont rien léguer, qu'ils ont honte d'avoir fait ces enfants là, qu'ils les trouvent cons et qu'ils veulent se barrer pour aller
prendre du plaisir au Portugal.
Ouais, aller baiser au Portugal, ouais, c'est ce qu'ils disent. Bon, là on a dit toute la scène, c'est pas terrible de la faire, mais
non, c'était très drôle, hein.
Non, mais peut-être qu'Alexandre nous fera un extrait lui tout seul.
Alors attendez,
parce que c'est toi après, comment dire, qui va être très affecté par tout ce que ses parents expriment. Mais encore une fois, non, mais ce qu'on aime bien, c'est là le côté un peu cathartique de notre travail, c'est que on représente l'inconscient, vraiment, tout ce qui pourrait... C'est ça, on a joué avec ça, tout ce qui devrait se dire dans les familles qui se dit pas, et évidemment, nous, on met ça en scène.
Et on expédie aussi dans ce premier quart d'heure toutes les revendications possibles, c'est-à-dire que tout est dit, tout est explosif, on pousse les potards, et ensuite, une fois qu'on s'est débarrassé de tout ça, on peut passer à un autre registre qui est plus inconscient. Mais on s'est amusé à se dire, tiens, commençons par la guerre, en un quart d'heure. Tout ce qui pourrait faire même toute une pièce, on la condense, on la caricature.
Oui, on a commencé par la fin un peu, nous. On a voulu que tout de suite ce soit l'explosion pour voir ce qu'il y a après, quoi.
En tout cas, il a fallu, pour avoir cette autre génération des parents, faire venir dans la troupe des Chiens de Navarre deux acteurs d'une autre génération qui viennent des Chiens.
Oui.
Comment les Chiens ont rencontré les Chiens et ces deux façons de rire, justement?
C'était le plus naturel au monde, parce que moi, quand j'étais jeune, plus jeune, quand j'étais acteur, y en a qui allaient voir d'autres metteurs en scène. Moi, je faisais un peu l'école visionnaire. J'allais voir le travail des Chiens à l'époque. Et ça me fascinait parce que c'était là vraiment la définition pour moi du théâtre populaire, quoi. On voyait les salles archi-bondées. J'avais l'impression que les gens tombaient des balcons tellement qu'il y avait du monde. Et il y avait un acteur qui arrivait, qu'ils avaient vu sur Canal+, les Chiens, les gens hurlaient et tout. Et pour moi, ça me fascinait beaucoup parce qu'il y a quelque chose toujours un peu de sérieux dans le théâtre public, quoi. Donc, tout d'un coup, la folie, comment dire, de cette qu'a traversé cette compagnie et ses acteurs, dont Olivier Saladin et Lorella Cravotta, qui nous ont rejoints, ça a été évident, quoi. C'était effectivement des... Je dis souvent qu'Olivier et Lorella sont un peu des vieux guerriers du rire, quoi. Rien ne les impressionne. Tout est bon pour rire, tout est bon pour déconner, rien ne les impressionne, quoi. Donc, il me racontait un souvenir où ils avaient fait à la cour d'honneur d'Avignon les pieds dans l'eau, je crois, où c'était assez magnifique. Et puis il y a des gens qui hurlaient c'est nul, enfin il y a des gens qui leur lançaient des bouteilles en disant pas la télé dans la cour d'honneur, tout ça. Donc et eux ils continuaient leur chemin à faire rire. Mais non, mais pour le coup c'est vraiment on avait l'expérience devant nous, quoi. Eux ils ont fait rire contre vent et marée, quoi.
On va écouter un petit extrait, Jean-Christophe Meurice, de votre film qui s'appelle Apnée, où déjà on retrouvait Olivier Saladin.
Tout à fait.
Dites-moi, vous voulez de l'argent, quoi? Qu'est-ce que vous voulez? C'est le numéro, c'est le code de la carte bleue, c'est ça que vous cherchez?
Non, on veut une famille.
Hein?
Une famille.
Une famille comme vous,
une
là.
Une famille comme vous. Pour une famille, attendez, des familles.
Un
vous
papa, pas... une maman, des enfants.
Bah,
une
vous n'avez pas, bah, vous vous pas vos parents?
Nous, on veut les choisir.
Qu'est-ce que ça peut faire? On veut les choisir et c'est vous.
Mais
qui...
Retournez chez vos parents.
Vous ne trouvez pas bien comme enfant? Vous aimeriez pas avoir des enfants comme nous?
Bah non, on a nos enfants, ça va, on a ce qu'il faut, on n'a pas besoin d'enfants, nous.
Hein. Bah ils sont pas là, vos enfants, en attendant.
Non, ils sont pas là.
Bah voilà.
Vous savez, les enfants, nous, ça va, on a eu notre dose, hein, ça va. On les a élevés, ils sont partis, maintenant, surtout tous les deux, on est très contents.
C'est ce que tu dis, hein,
ça va. C'est pas ce que je dis, c'est ce que je pense.
Vraiment?
Exactement.
Ça te manque pas un petit peu?
Je vais vous dire, c'est vraiment pas le moment, on n'a aucune envie de se retrouver avec des personnes à charge. Hein.
Mais pourquoi?
Pourquoi? Parce que. Les besoins, on les connaît, nos besoins.
Mais non,
Mais bien sûr.
Non, sinon t'aurais pas ce décor horrible.
Quoi, qu'est-ce qu'il a mon décor?
Mais c'est
horrible. Et si vous êtes pas content, vous partez, hein?
Bah oui, et bah oui. Non,
ils ont besoin d'aide, ces gens.
Ils me plaisent plus. Ils ont besoin de nous. J'ai pas envie d'avoir un père qui est un tyran et une mère qui est complètement effacée, complètement dépérée. C'est pas ça que je veux, moi.
Bah qu'est-ce que vous voulez alors?
Bah je veux des parents.
En forme.
Qui ressemblent à des parents, qui soient un modèle, un père qui soit.
Mais on est des parents modèles, on a toujours été des parents modèles.
Et nos enfants
ne sont pas. Vous avez été des parents comme les autres, mais pas modèles.
Pas du tout, on a rien à se reprocher, on les a élevés.
Mais je suis pas très effacée. Hein? Alors ça va bien maintenant?
Bah oui, vous avez besoin, vous avez besoin d'éducation. Mal éduqué, hein, vous êtes mal élevé.
Bah tu vas nous.
Alors bah oui, je vais vous élever. Alors d'accord. Alors là, ça m'en rend. On va reprendre toi à zéro, hein.
D'accord.
Et à commencer par toi.
Qu'est-ce que j'ai fait encore?
Bon, tiens-toi bien!
Non, bon, crie pas.
Mets tes mains sur la table!
Bon, crie pas.
Oh, non, mais je crie pas, il faut bien faire leur éducation, quoi.
Merde, là, alors.
Tiens-toi aussi, t'écoutes, là!
Tu t'es servi de la soupe, tu la manges.
Hein, ah. Mais j'en veux plus! Et voilà, c'est gâché, ça y est, c'est comme à chaque fois.
Vas, hein. Tu vas me la bouffer, ta soupe.
Et ça, oui, d'accord.
Maman, il y en a marre de la soupe.
Arrête de te marrer, toi! Mange-la!
Voilà.
Déjà, il y avait la question... Enfin, là, il débarquait chez un couple avec Olivier Saladin et il cherchait des parents. Et donc, il y avait la question, c'est quoi des parents qui ressemblent à des parents et des enfants dont on a envie d'être les parents? Et c'était comme un préambule au spectacle d'aujourd'hui.
Ouais, c'est vrai que dans Apnée, il y avait cette... comme c'était... ils incarnaient un trio comme ça qui remettait tout en cause en traversant la France en quad. Enfin, pas en Harley Davidson, parce qu'on a un petit peu moins de moyens maintenant, enfin, vous êtes un peu au courant. Et on remettait tout en cause, le travail, l'amour, les enfants, la famille, et tel des Diogènes, comme ça, ils remettaient en cause avec humour, j'allais dire cynisme, non, parce que cynisme aujourd'hui c'est un peu galvaudé, parce que cynisme aujourd'hui ça voudrait dire avec malhonnêteté et tout ça, mais je parle du cynisme des Grecs, quoi, celui qui remettait tout en cause. Diogène avec humour. Platon disait de Diogène, c'est un Socrate qui est devenu fou. Ouais, j'aime bien cette définition même du cynisme et de Diogène. Donc à un moment, effectivement, il remettait même en cause ce que pouvait être aujourd'hui le désir d'avoir des enfants, ce qu'être parent. Oui, ce n'est que de façon l'expression même de la frustration ou d'une certaine souffrance, d'une insatisfaction permanente. Thomas Bernhard disait « Je ne suis bien nulle part ». Et il disait ça dès ma jeune enfance, déjà. Je trouve ça vrai. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas, mais ça veut dire qu'on a toujours une exigence affective, intellectuelle, une projection sur ce que pourrait être le père ou la mère parfaite qu'on ne sera jamais.
Mais un peu plus tard dans la scène, dans Apnée, il y a aussi ce... conflit assez drôle entre les deux générations qui s'installent parce que les enfants, enfin les plus jeunes, disent à ce couple de plus vieux « mais vous nous avez laissé le monde dans un état catastrophique et ça, dans la pièce, c'est ce dont vous parliez tout à l'heure, cette confrontation entre deux générations qui est assez drôle parce que tout à coup, il y a la rébellion des enfants qui disent « mais à ce couple 68-art et cette génération qui veut tout lâcher, reprendre du plaisir, finalement, vous nous avez abandonnés, vous êtes qu'une... bande de babacools dégénérés. Et nous, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Il n'y a plus d'idéaux, on est complètement lâchés dans la nature. Et donc là, c'est à la fois assez drôle et en même temps, bon, assez terrible.
Bah, on paye comme des cons l'insouciance de nos parents, ils ont bien eu raison, quoi, c'est nous. C'est Blanche Gardin qui dit « Avant, Paris est une fête », mais non, Paris n'est plus une fête, c'est juste bourré d'insomniaques qui pissent toute la nuit du thé vert, quoi. C'est ça, quoi. Nous, on paye la dette, quoi. Donc, tant mieux, quoi. Ils en ont bien profité, mais c'est amusant de voir le désespoir de notre génération, quoi. Donc, non, il n'y a pas de...
En plus, c'est une génération, enfin tant mieux, hein, d'ailleurs, on a quand même nos parents, mais qui se refusent, enfin qui ne meurent pas. Mais c'est vrai. En plus d'être nés à une période où il y a une pleine croissance, donc ils ont, sont à la tête de tout, le patrimoine. En plus, c'est-à-dire qu'il y a un problème aussi d'héritage, c'est-à-dire de quoi on hérite et surtout ce qu'on va hériter, puisqu'il y a une sorte de. La vie dure de plus en plus longtemps. Enfin, j'imagine que je ne suis pas au Moyen-Âge et j'en mourrais à 25 ans, enfin, c'est pas mieux, mais en fait, dans le bonheur, dans le fait d'avoir fait des
des avancées scientifiques aussi d'avoir rallongé le temps de vie, ça crée un problème où on coupe pas le cordon, quoi. On est toujours, et on peut plus inviter nos parents chez nous non plus, parce qu'on a des appartements plus petits, parce qu'on a moins d'argent. Donc à aucun moment, eux, ils ont pu faire ça à leurs parents. C'est un peu les humilier. Leurs parents avaient connu la guerre, et donc ils ont pu, dans les années 70, les recevoir en patte d'éléphant chez eux dans un salon de 120 mètres carrés. Et nous, à 34 ans ou 40 ans, on est toujours dans 8 mètres carrés. Avec une table pliante et 6 divorces. Il y a une sorte d'humiliation déjà physique. Et en fait, eux, ils y sont pour rien.
Vous avez fait une petite liste des titres qui auraient été possibles, enfin, auxquels vous aviez pensé au tout début, avant de créer le spectacle. Je crois qu'il y en a un, c'était « Maman, joue-nous BD ». Et il y a aussi beaucoup de jeux et de rires autour de toutes les histoires de famille qui sont présentes dans les grandes tragédies au théâtre. Ouais. Il y a les yeux crevés de Deep qui apparaissent à un moment, il y a Médée. Ouais. Pourquoi c'était important aussi de revisiter des moments comme ça qui sont très très drôles dans le spectacle?
Ouais, parce que c'est toujours un peu notre manière de travailler, qui est le fait que quand on aborde une thématique comme ça, on va dans tous les recoins et qu'on n'est pas obligatoirement dans un rapport hyper narratif ou hyper affectif aux choses. C'est-à-dire que justement, et donc on s'est posé la question de la famille en la littérature, dans la psychanalyse, et évidemment, comme on aime bien s'amuser avec les figures, comme souvent dans les spectacles, celles de Médée et de Deep sont venues naturellement, donc on a proposé à Deep de chanter une chanson de Patrick Bruel. Donc ça, pour le coup, on va pas dévoiler le titre, c'est hyper bizarre, c'est déjà dit, quoi. Et puis Médée, oui, il y a Charlotte Laemmel qui incarne toutes les Médées à la fois.
Et nous, on a pensé au cinéma et on pensait à une scène de À nos amours.
Oh, arrêtez, merde!
Tu vas aller à la cuisine, là?
Si tu viens nous déranger, on était bien sans toi.
Arrêtez, oh!
Mais si te tire!
Arrête!
Si te tire!
Écoute, je sais que vous faites ça tous les jours entre vous, vous n'allez pas recommencer avec moi, non?
Arrête,
j'ai assez vite à tomber. T'emballe, pas t'emballe, j'en ai un à foutre.
Qu'est-ce que t'attends pour prendre la défense de ta mère qui me frappe? Il paraît que tu t'entraînes tous les jours en battant ta soeur.
Suzanne.
Ouais, tu pourrais t'en occuper, c'est maintenant que tu t'en occupes de
mais
ça.
Mais toi, tu t'en occupes très bien puisqu'il paraît que tu la cognes tous
mais
les
tu
jours.
Tu t'en es jamais occupé, t'as jamais téléphoné pour savoir comment elle, comment mais on allait.
C'est une ordure.
Qu'est-ce que tu en sais?
Allez, puis barre-toi, merde!
Arrête,
quelle vulgarité! J'ai pu rester 20 ans avec
toi. Ouais, 20 ans.
T'es pas en train,
hein?
Tu veux que je pousse ton colère? Qu'est-ce que c'est pas, moi?
Fous le camp!
Mais gueule pas, je dis tu
t'assois. Je gueule pas, je te dis fous le camp. Bon, je te le dis sous tous les tons.
Tu t'assois, je m'en vais.
Tiens, mon amour. Allez, hop!
Je t'ai dit de t'asseoir. On va pas faire ce cinéma-là pendant 10 ans, non? Tu t'assois.
Et toi, tu te barres.
La merde. Tape dur.
Donc, c'est impressionnant quand même.
C'est fou la vie. Hein. On admire son père et puis il s'en va. Et puis quand on le revoit, c'est un autre homme.
Vous vous souvenez de cette scène, Jean-Christophe Maurice?
Oui, très grand film. C'est vraiment. Non, mais il faut pas oublier. En plus, après avoir écouté cet extrait-là, que le premier film de Maurice Pialat, c'est L'amour existe, qui est quand même parce que quand même d'aller aussi loin dans la haine, dans la violence et dans la tristesse, quoi. Mais tout ça n'est pas dénué de tendresse, quoi. C'est le cinéma de Pialat est fabuleux pour ça, quoi. C'est vraiment pas un cinéma d'idées, c'est un cinéma sur l'humain, quoi. Il est allé très très loin. Et là, effectivement, sur ce que peut représenter pour lui la famille, oui. Comme je disais, la famille, c'est avant tout une histoire de violence, quoi. C'est-à-dire qu'on s'est pas choisi, quoi. On doit quand même se subir, quoi. C'est-à-dire, il y a un moment, voilà, on se retrouve quand même une partie de notre vie avec des gens qu'on n'a pas choisi. Donc, effectivement, ça peut aller très très loin dans une forme de violence verbale, physique. Une forme de haine qui est pas très loin de celle de l'amour aussi. Et ça, pour le coup, à travers la manière de filmer de Maurice Pialat, c'est... Ah oui, je suis très proche de la manière de s'exprimer de Pialat. Ouais, ça fait très longtemps que j'avais pas entendu des extraits Avec bon air, tout jeune.
C'est fou, c'est d'entendre des comédiens qui parlent les uns par-dessus les autres. Ça fait vraiment du bien. Ouais. Souvent, on nous dit, puis au cinéma surtout, attention, non mais là, tu viens de... Et en fait, c'est génial parce que ça nous donne, nous, en tant que spectateurs, l'occasion de piocher ce qu'on veut. Même pour voir la séquence trois fois, on va entendre quelque chose qu'on n'a pas entendu. Et en vrai, ça fait un truc de vie, de bordel qui est inimitable. Et puis ça me fait penser un peu à la manière dont on travaille, quoi. Parfois c'est compliqué, on parle des uns par-dessus les autres, mais ça crée une vraie urgence.
Non mais en plus, quel chef, quoi. Quel chef de pouvoir aller aussi loin dans l'expression même des sentiments. D'aller aussi loin dans quelque chose de violent, quoi. C'est-à-dire, il faut... Et aujourd'hui, pour aller aussi loin dans quelque chose, surtout de la cellule familiale aussi haineux, quoi. Quel chef, quoi. Pour arriver à ça. Parce que il me fait toujours penser, Piala, à quelqu'un qui assombrit ses tableaux, assombrit à gros coups de peinture noire, et puis tout d'un coup, il reste plus qu'une petite fenêtre toute lumineuse, toute blanche, quoi. Comme ça, de manière un peu ensoleillée, ça devient magnifique. C'est pour ça que... Bon, là, je me répète. Mais à chaque fois que je pense à Piala, je pense au titre de son premier film, L'amour existe, qui symbolise vraiment, sans doute, toute son œuvre.
Et ça ressemble aussi au mouvement de la pièce, parce que vous parlez de la violence et de la tendresse, et de peut-être l'amour existe, et finalement, la lumière, et sans dévoiler le mouvement et la fin de la pièce, il y a quand même vers la fin une scène sur la vieillesse, et puis sur l'enfance, et sur la transmission, qui est très tendre. Après toute cette violence et ce rire et cette exagération et puis on s'est baladé dans le temps, il y a eu des étirements entre justement ces enfants, ils ont été très jeunes puis vieux, et puis là c'est comme un autre tempo et une fenêtre qui s'ouvre à la fin.
Bah ouais, parce que malgré tout, malgré ce qu'on veut représenter, malgré ce qu'on a vécu personnellement, ouais, effectivement, qu'est-ce qui nous reste dans nos rapports, c'est quand même un petit peu d'amour, alors au moins d'un peu de tendresse, quoi. Hein? Parce qu'il y a un tableau sur, effectivement, la famille, c'est aussi une histoire d'absence, quoi. Quand justement un de nos parents part, qu'est-ce qui reste, quoi? Qu'on ait eu des rapports, des rapports difficiles ou faciles avec ses parents, ça, c'est le vide. Comment on le remplit, quoi? Sûrement pas d'amertume, quoi. Enfin, en tout cas, ça, c'est ma vision. Et donc, c'est comme si ma vision, ça s'empare un peu du spectacle, ouais. Oui, j'espère. Enfin, c'est très bien nommé, quoi. Mais j'espère qu'on pourra entrepercevoir un peu de tendresse aussi encore une fois, dans cette pièce, ouais.
Est-ce qu'on peut se souhaiter Joyeux Noël, Jean-Christophe Meurice et Alexandre Steiger?
Ah, moi, c'est ma passion. Moi, j'ai toutes les photos avec les Pères Noël.
Tu chantes Joyeux Noël?
Je chante Joyeux Noël.
Très,
même
très bien. Tu la chantes
à la chorale. Ma fille est complètement, qui a 3 ans, est complètement effrayée par le Père Noël. C'est vrai que quand ça se met dans la tête, elle hurle de peur quand elle voit Père Noël.
C'est parce que tu te déguises en Père Noël, c'est pour ça.
Non, dès qu'elle en voit un, donc l'intermittent du spectacle est en dessous, elle doit quand.
Parce que tu joues très mal. Il joue très mal le Père Noël. Engage-moi pour faire le Père Noël, tu vois.
Bah écoute. Prochaine pièce, peut-être, où tu pourras faire l'entrée publique au Père Noël.
On a commencé par les rôles que chacun a à jouer un 24 décembre pour un dîner en famille, puis sur scène, l'ordre et les rôles ont été bousculés. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année, accompagnées par les esprits rebelles sur France Culture, c'est notre thème de fin d'année. Je dis merci à Lionel Quentin et Delphine Lemaire pour la réalisation de cette émission, à Inès Dupéron pour la préparation et à la technique ce soir, merci à Philippe Mercher. Bientôt, il sera 21h, vous écoutez France Culture, c'est l'heure de Théâtre et Compagnie avec Blandine Masson.